bien, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, encore une fois, Église des Sentiers, pour apporter un message de la parole de Dieu. Et ce matin, on va continuer la série que vous voyez déjà à l'écran, La Maison de Dieu, qui est un survol de la première épître de Paul à Timothée. Timothée, c'est un collègue de l'apôtre Paul que Paul avait envoyé dans la ville d'Éphèse pour prendre soin de l'Église qui était à Éphèse. Il y avait des personnes à Éphèse qui enseignaient vraiment des choses qui étaient contre l'Évangile, qui étaient contre la vérité que Paul avait enseignée au tout début quand l'Église a été implantée. Puis un des défis de Timothée, justement, c'était de gérer quoi faire avec les gens qui enseignent, on dit, des fausses doctrines ou des choses qui sont des enseignements qui ne suivent pas la vérité de l'Évangile. La dernière fois, vous vous souvenez, on a parlé de Chesbras. Vous vous souvenez de ça? Puis, quelqu'un se souvient pourquoi j'ai mis la vidéo de Chesbras? Chesbras, dos. Vous vous souvenez? S'entraîner, exactement. C'était l'idée de s'entraîner. En parlant de dos, j'ai mentionné que Dominique King était justement en train de s'entraîner pour un marathon et est en train de courir son marathon ce matin. Donc, il y a un mois, quand je suis venu, je parlais du fait que Dominique est en train de s'entraîner. Puis, j'ai essayé d'encourager Dominique peut-être à faire comme les Grecs, puis de courir léger, mais non, je pense qu'il m'a envoyé des photos à 6h55 ce matin. Il était avec Kim, sa femme, il était avec ses enfants, avec sa sœur, sa mère. En tout cas, toute la gang était là, l'ambiance avait de l'air malade. Malheureusement, j'ai pas la photo pour vous montrer, mais c'était vraiment quelque chose. Et l'ambiance que ça avait de l'air ce matin, il est en train de courir sa course en ce moment. Fait qu'il est en train de vivre le fruit ou peut-être le labeur là, de toutes ces semaines d'entraînement-là. Je suis convaincu que c'est pas évident pour Do en ce moment. On peut même penser à lui puis prier pour lui, qu'il se rende jusqu'à la fin. on avait parlé de l'entraînement du cœur, finalement. Non, je suis convaincu que Do va se rendre jusqu'à la fin, mais pour Do, ça va être « Est-ce que je vais le faire dans le temps que je m'étais dit que je voulais le faire? » T'sais, parce que le gars, il s'est entraîné pour pas juste pour le finir, mais pour le finir dans le temps souhaité. On avait parlé la dernière fois, dans 1 Timothée chapitre 4, de l'entraînement du cœur, l'attachement à Dieu, puis l'importance de poursuivre cet attachement à Dieu-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on étudie la Bible, on a tendance à catégoriser ou séparer les morceaux de la Bible en paragraphes, en sections, selon le thème qui est abordé. Puis la dernière fois, quand j'ai enseigné sur ce thème-là, le chapitre 4, en fait, il est séparé en deux grandes sections, les versets 1 à 5, où l'apôtre Paul parle de faux enseignements qui sont faits à l'église d'Éphèse. Puis l'apôtre Paul dit à Timothée, il ne faut pas laisser ces enseignements-là se répandre dans l'église. La deuxième grande section, les versets 6 à 16, forment un tout. Mais la dernière fois, on a juste couvert ensemble les versets 6 à 10. Ce matin, on va couvrir les versets 11 à 16. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, les versets 6 à 16, là, c'est toute une grande section qui parle de la même affaire. C'est important de comprendre ça. Donc, dans le chapitre 4, il n'y a pas trois sections. Il n'y a pas 1 à 5, 6 à 10 et 11 à 16, mais c'est vraiment 1 à 5 et 6 à 16. Thématiquement, la dernière fois, on avait vu que les versets 1 à 5, on parle des faux enseignements, tandis que les versets 6 à 16, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Voici comment tu dois agir comme un bon serviteur de Jésus-Christ. » En contraste avec des enseignants qui n'enseignent pas la vérité de Dieu, qui n'agissent pas comme des bons serviteurs de Jésus-Christ, voici comment toi, Timothée, tu dois agir comme un bon serviteur de Jésus-Christ. Et nous, comme j'ai dit, on avait fait 6 à 10 la dernière fois. Ce matin, on va faire 11 à 16, mais on va tout comme connecter ça ensemble, si vous voulez. Et dans un sens, on va toute la section 6 à 16, comme je dis, nous parle de ce grand thème-là d'être un bon serviteur de Jésus-Christ. Donc, ce qu'on va voir ce matin va comme sous le même parapluie qu'on avait vu la dernière fois. Pour être un bon serviteur de Jésus-Christ, la dernière fois, on avait vu qu'il fallait rejeter les contes profanes de vieilles dames, dans le fond, les histoires qui sont des choses qui vraiment ne s'alignent pas, des mythes, des histoires qui ne contribuent pas à l'édification puis qui ne contribuent pas à la foi des gens dans l'Église. Puis il faut plutôt s'exercer à la piété, parce que la piété est utile à tout. L'attachement à Dieu est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Mais les versets 11 à 16 ne font que continuer cet enseignement-là de ce que ça veut dire d'être un bon serviteur de Jésus-Christ. Si ces versets forment un tout, c'est parce qu'ils communiquent en gros la même idée. Cette idée-là, c'est qu'un bon serviteur de Jésus-Christ a une responsabilité. Il a une responsabilité. Paul écrit à Timothée, un de ses collaborateurs dans la foi, et Timothée, finalement, est un des responsables de l'Église à Éphèse. Dans le chapitre 3, on voit Paul qui dit à Timothée, « C'est ta responsabilité, Timothée, de faire nommer, de faire reconnaître des anciens dans l'Église, des responsables dans l'Église qui vont prendre soin de l'Église, qui vont être des bergers pour l'Église. » Et donc, Timothée est un des responsables de l'Église, un associé de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était lui-même qui avait implanté l'Église d'Éphèse. Et donc, ici, on voit des instructions qui sont données à Timothée et on voit une responsabilité qui est attribuée à Timothée dans les versets 6 au verset 16. Et la responsabilité, j'aimerais la résumer avec la phrase suivante. Un serviteur de Jésus-Christ, un bon serviteur de Jésus-Christ, a une responsabilité de poursuivre Dieu de toutes ses forces en espérant influencer tous les autres à faire comme lui. Poursuivre Dieu de toutes ses forces en espérant influencer tous les autres dans l'Église à faire comme lui, et même ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. La raison pourquoi je dis que ce passage ne peut pas être vraiment séparé en deux, 6 à 10 à 11 à 16, il y a même une raison grammaticale. C'est quand on étudie le texte, puis on étudie les mots, puis on étudie la grammaire, puis on étudie comment les phrases sont construites, on se rend compte qu'il y a une unité dans tous ces versets-là de 6 à 16. En effet, il y a un des éléments dans ce texte-là, quand on fait l'étude du texte, c'est qu'on trouve 12 verbes. Du verset 6 au verset 16, on trouve 12 verbes à l'impératif. L'impératif, c'est en grec, comme en français, c'est un temps de verbes qu'on utilise pour donner comme des ordres ou des commandements. C'est des choses qui sont non négociables. Si je dis à Isaac, qui était ici tantôt dans la salle, mon fils plus vieux, Isaac, si je lui demande « Peux-tu sortir les poubelles? » Je lui pose une question, il peut répondre « Oui, je peux », puis rien faire. Ou il peut répondre « Non, je ne peux pas ». Mais si je dis « Isaac, sors les poubelles à l'extérieur », là, j'ai utilisé un mode de verbe différent, l'impératif, qui est plus comme un ordre que j'ai donné, qui est un commandement que je donne à Isaac. C'est sûr que je ne dis pas à Isaac, voici le commandement que je te donne. T'sais. On ne parle pas dans ces termes-là, mais on comprend le motif, on comprend la raison pourquoi ce mode est utilisé, le mode de l'impératif, en grec comme en français. Donc, dans ces versets-là, c'est super intéressant parce que dans tout le chapitre, il n'y a pas vraiment d'impératif. Les seuls impératifs qu'on trouve, c'est dans ces versets-là, de 6 à 16, puis il y en a 12. 12 impératifs, c'est comme un après l'autre. Puis, c'est 12 impératifs par lesquels l'apôtre Paul donne des instructions, puis des exhortations. Un autre mot pour exhortation, c'est des encouragements assez forts, bien précis, pour être un bon serviteur de Jésus-Christ, comme Timothée est appelé à l'être. On va lire ensemble les versets 6 à 16. Puis j'ai choisi, dans le texte que vous allez voir à l'écran, chaque fois qu'il y a un des impératifs, un de ces 12 impératifs-là, je l'ai mis en bleu. J'espère que ça va bien paraître. Le reste du texte est en blanc, mais à chaque fois qu'on voit un impératif, je l'ai mis en bleu. Puis vous allez voir à quel point c'est impressionnant de voir comment l'apôtre Paul, dans cette section-là, est vraiment directif avec Timothée. Vraiment, il lui donne comme des instructions à suivre et des choses à faire. Donc, lisons ensemble, si vous voulez bien, les versets 6 à 16 de 1 Timothée, chapitre 4. « En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à tout. est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons, que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. » En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. C'est vraiment intéressant. Lorsqu'on analyse un peu la présence de ces verbes à l'impératif dans ce passage qu'on vient de lire, on se rend compte qu'il y en a 12 qui sont comme matchés ensemble, qui sont comme combinés en 6 paires. 2 fois 6, ça fait 12. Donc, 6 paires de verbes à l'impératif qui sont comme combinés ensemble. Je les ai mis ici à l'écran. Donc, on a « rejette les contes, mais exerce-toi la piété. Transmets ses instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Applique-toi à la lecture de la parole, à l'encouragement et l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi entièrement envers elles. Veille sur toi-même et sur ton enseignement et mets-y de la persévérance. » C'est vraiment intéressant de voir comment l'apôtre Paul a construit ce passage-là, puis de voir comment ces impératifs-là fonctionnent ensemble. Pour moi, quand je lis ça, une des choses que je comprends, c'est qu'il n'y a aucun flou dans ce que l'apôtre Paul essaie de communiquer à Timothée. Aucun flou en ce qui concerne le rôle et la responsabilité de Timothée en tant que bon serviteur de Jésus-Christ, en tant que responsable de l'Église d'Éphèse. Par extension, ce que Paul dit à Timothée dans ce passage-là s'applique aussi à toute personne qui va vouloir jouer le rôle de responsable dans une église. Donc, ça s'applique à des pasteurs, ça s'applique à des femmes qui sont dans le leadership de l'église, ça s'applique même aux diacres et aux diaconesses de l'église qui ont aussi comme un rôle de leadership. Ça s'applique même, dans un sens, à tout chrétien par extension, parce que tout chrétien est appelé à faire beaucoup de ces choses-là que l'apôtre Paul demande à Timothée de faire dans ses instructions. Mais c'est vrai que pour les responsables d'Église, il y a des attentes qui sont mises envers eux. On comprend qu'il y a des attentes que l'apôtre Paul place sur Timothée en tant que responsable de l'Église d'Éphèse. Mais la question, c'est donc, à quoi devrait-on s'attendre d'un responsable d'Église? La réponse, je pense, en lisant ce passage-là, si on fait un résumé de l'enseignement de ce passage-là, c'est qu'un responsable d'Église est appelé à, premièrement, dire l'Évangile, deuxièmement, vivre l'Évangile fidèlement. Donc, dire l'Évangile fidèlement, et deuxièmement, vivre l'Évangile fidèlement. Et troisièmement, un responsable d'Église est appelé à poursuivre Dieu de toutes ses forces, malgré les défis. Et Dieu sait qu'il va avoir des défis. Mais il est appelé à dire l'Évangile, à vivre l'Évangile et à poursuivre Dieu de toutes ses forces, malgré les défis. C'est comme cela que je comprends le texte et que je crois que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, voici comment tu peux être un bon serviteur de Jésus-Christ. Donc, même si Paul s'adresse à Timothée, puis par extension à tous les responsables d'Église, je pense que aussi ça s'adresse aux chrétiens en général. Parce que ce n'est pas vrai que la Bible a des standards différents de sainteté ou de piété, d'attachement à Dieu, qui sont différents pour les responsables que pour les chrétiens dans l'Église qui ne sont pas pasteurs ou qui ne sont pas responsables ou qui ne sont pas diacres ou diaconesses ou responsables d'un ministère. La Bible n'a pas deux poids, deux mesures. C'est la même sainteté à laquelle Dieu nous appelle, qu'on soit un responsable d'Église ou qu'on soit quelqu'un qui est dans l'Église, mais un membre d'une Église, mais qui n'est pas un responsable. Dieu nous appelle à fuir le péché et à s'attacher à lui, peu importe le rôle que nous avons. Mais quand même, c'est un message qui, oui, s'adresse plus particulièrement à des responsables d'Église, à des pasteurs, des diacres, des diaconesses. Mais c'est aussi quelque chose que je crois que tout chrétien ici présent peut mettre en pratique et peut chercher à poursuivre. Un bon serviteur de Jésus-Christ, donc, premièrement, dit l'Évangile fidèlement. On voit dans ce passage-là un accent particulier sur la responsabilité de Timothée d'enseigner la parole de Dieu, d'enseigner l'Évangile. Quand je parle de l'Évangile ici, il faut faire attention parce que peut-être que vous, vous comprenez, quand je dis Évangile, ah oui, le fait que Jésus est mort à la croix, le fait que Jésus a été mis dans un tombeau, le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts, puis qu'aujourd'hui, si on met notre foi en lui, puis qu'on se détourne de nos péchés, on poursuit la repentance, puis qu'on décide de suivre Jésus comme ses disciples, là, on va naître de nouveau puis devenir chrétien. Comme si l'Évangile, c'est la chose qui nous fait devenir chrétien. Puis après qu'on est devenu chrétien, on n'a plus besoin de parler de l'Évangile ou de réfléchir avec l'Évangile. L'Évangile n'a comme plus rapport. Mais c'est pas ça que j'entends par Évangile. Ça serait comme, oui, c'est vrai que l'Évangile, c'est qu'est-ce que je viens de résumer en quelques phrases ou en quelques éléments, tu sais. Les quatre pas vers le ciel, c'est Dieu t'aime, mais tu es un pécheur, mais Jésus est mort pour toi, puis il est ressuscité d'entre les morts pour te sauver. Si tu mets ta foi en lui, tu vas être sauvé. On peut résumer dans un sens l'Évangile comme ça. Mais quand je parle ici de dire l'Évangile, je parle d'un Évangile qui est beaucoup plus englobant que ça, qui est beaucoup plus large que ça. Je parle de tout ce que Dieu a révélé en Jésus-Christ et de tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous sauver, mais aussi pour sauver toute la création, pour réunir tout ce qui existe dans l'univers et dans la création, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, dans une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10 nous dit ça, que le plan de Dieu pour l'univers, c'est de réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous l'autorité d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ et tout ce que Dieu nous a révélé dans la personne de Jésus-Christ pour réunir tout ce qui existe, tout l'univers sous l'autorité de Jésus, c'est ça, à ça à quoi je fais référence quand je parle de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que Dieu a fait tout ça en Jésus pour que nous, on n'ait pas besoin de le faire. Mais ça ne nous concerne pas juste nous personnellement, ça concerne l'univers en entier, ça concerne notre société, ça concerne les peuples, ça concerne même la création physique que Dieu a créée. Le péché a déformé toute cette création et a fait des ravages. Le monde ne tourne pas rond aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la personne de Jésus, dans ce qu'il est et ce que Jésus a fait, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait quelque chose de complètement incroyable et merveilleux. Par grâce, il nous permet de pouvoir y partager, de pouvoir être sauvés, de pouvoir être restaurés. Et ce n'est pas juste nous, mais toute la création entière. Donc, lorsque Paul dit à Timothée que c'est important de dire l'Évangile, on va voir quelques mots qui sont utilisés par l'apôtre Paul dans ce passage-là, qui vont dans ce sens-là. L'idée d'enseigner, l'idée de transmettre des instructions, l'idée de veiller sur son enseignement, c'est ça à quoi je fais référence. Ce n'est pas juste l'Évangile au sens strict, mais l'Évangile vraiment au sens large. Regardez par exemple le verset 11. Verset 11, « Transmets ses instructions et enseigne-les », faisant référence aux instructions que Paul vient de dire à Timothée dans les versets 6 à 10, où il avait dit « Exerce-toi plutôt à la piété, parce que la piété a la promesse de tout, est utile à tout, la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir ». Deux verbes ici qui sont utilisés dans le sens de transmettre quelque chose, d'enseigner quelque chose. On voit au verset 13, « En attendant que je vienne, applique-toi à quoi? Lire les Écritures, l'encouragement et l'enseignement. » Donc, trois verbes ici qui sont utilisés dans le verset 13 pour encore renforcer cette idée-là que Timothée, en tant que bon serviteur de Jésus-Christ et responsable d'une église, a la responsabilité d'exposer l'Assemblée aux Écritures, de lire les Écritures, de lire la parole de Dieu à l'Assemblée pour que les gens puissent entendre la parole de Dieu, y être exposés, la connaître. Non seulement ça, mais à partir de cette parole de Dieu-là qui est exposée à l'Assemblée, encourager les gens, les exhorter à suivre, à obéir à cette parole, à suivre la voie de Dieu, à chercher à s'attacher à Dieu. Et le troisième verbe, c'est l'enseignement de ce qu'on a lu. Donc, il y a l'exhortation ce matin, il y a un mélange. On a lu les Écritures, hein, ce matin, on a lu les versets 6 à 16 de 1 Timothée chapitre 4. Puis dans un sens, ce que je suis en train de faire ce matin, c'est un mélange d'encouragement pour vous et d'enseignement. On a pris du temps pour examiner qu'est-ce que le texte dit, qu'est-ce que les mots signifient. Au verset 16, on voit encore cet accent-là mis sur l'enseignement. Il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » veille sur toi-même et sur ton enseignement. Pourquoi il dit de veiller sur cet enseignement-là? Parce que c'est si facile de faire comme les faux docteurs, de faire comme ces faux enseignements dont l'apôtre Paul parle des versets 1 à 5 du même chapitre. C'est si facile de déformer l'Évangile. C'est si facile de tomber dans un, tomber dans un enseignement qui ne nous amène pas sur, à se reposer sur la puissance de Dieu dans l'Évangile, mais à se reposer sur notre propre puissance, nos propres capacités, notre propre intelligence. Et donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est super important de veiller sur ton enseignement. Tu as une responsabilité sur l'Église, tu es un des responsables de l'Église. Dieu t'appelle donc à enseigner l'Église, puis tu es un de ceux sur qui cette tâche-là repose. Tu n'es pas la seule personne, mais c'est une de tes responsabilités. Si tu veux être un bon serviteur de Jésus-Christ, tu es appelé à veiller sur ton enseignement. Souvenez-vous même du verset 6, je ne sais pas s'il est là. Oups, ça comme arrête de fonctionner. Si on peut juste avancer à la prochaine. Le verset 6, on l'avait lu il y a un mois. Ça nous dit, « En exposant cela aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri de quoi? » On l'avait vu, « des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. » Donc, le point que moi je retiens de tout ça, et que j'espère que vous pouvez voir aussi, c'est que c'est la Bible, la parole de Dieu, c'est l'Évangile qu'on veut avoir. On n'est pas ici ce matin pour entendre ce que Alex a eu comme idée et veut transmettre à l'Église Le Sentier. Si vous êtes ici pour entendre les idées de Alex, vous allez être déçus. En fait, j'espère que vous allez être déçus. J'espère que vous n'êtes pas là pour ça, puis pour la plupart, je sais que vous n'êtes pas là pour ça. Mais on n'est pas là pour juste trouver le prochain spin d'idées, la prochaine affaire qui va marcher, les prochaines idées humaines qu'on peut avoir puis avec lesquelles on peut comme s'encourager pour marcher. On n'est pas là pour ça. On est ici ce matin pour entendre ce que Dieu a à dire. Amen. Parce que c'est ce que Dieu a à dire, c'est l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu qui a le pouvoir de faire une différence dans nos vies. Ce n'est pas comment je suis capable avec l'art oratoire ou avec les bons mots, de vous le transmettre. La puissance n'est pas dans ça. La puissance est dans la parole de Dieu lui-même. Moi, j'ai été un bon serviteur de Jésus-Christ ce matin. Si j'ai bien compris le texte qu'on est en train d'étudier, puis je vous le transmets fidèlement qu'est-ce que ce texte-là est en train de dire. Donc, un bon serviteur de Jésus-Christ cherche à dire l'Évangile fidèlement, à lire les Écritures, à proclamer, à exposer, à enseigner fidèlement la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, par contre, dans Matthieu chapitre 7, verset 26, ça ne sert pas à grand-chose de juste entendre la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. Il dit en fait au verset 26 de Matthieu chapitre 7, « Quiconque entend ces paroles que je dis, » Jésus fait référence à ses propres paroles qu'il lui-même est en train d'enseigner, Jésus dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Donc, à quoi l'enseignement de la parole de Dieu sert si on ne la met pas en pratique? Ça ne sert à rien. Un bon serviteur de Jésus-Christ, il ne fait pas juste dire l'Évangile, l'enseigner, l'exposer, mais il veut vivre l'Évangile aussi. Sûrement, une des pires choses qu'on peut expérimenter dans la vie, c'est d'avoir un héros, d'admirer quelqu'un pour qu'est-ce qu'il fait. Je viens d'aller voir le film Avengers, phase finale, c'est plein de super-héros là-dedans. Puis une des choses sûrement pires, c'est d'avoir un héros, quelqu'un qu'on admire comme ça dans notre vie, puis un jour, finalement, se rendre compte ou apprendre que cette personne-là, tout ce pourquoi elle se battait, ce qu'elle proclamait de sa bouche, c'était tout du faux parce qu'en secret, cette personne-là faisait tout le contraire de ce qu'elle disait en public. C'est sûrement une des pires choses qu'on peut expérimenter. Le mouvement hashtag moi aussi, qu'on a vu il y a quelques années passées, ça a été un choc justement pour plusieurs personnes à cause de ça. Il y avait des gens pour qui, des acteurs, des personnalités publiques, des chanteurs, pour qui ces personnes-là, c'était des héros pour plusieurs, puis ces personnes-là se sont fait exposer, ils se sont fait dévoiler pour leur manque d'intégrité. Puis il y a des gens qui ont été démolis par ça, de voir des leaders, de voir des personnes devant eux qui, finalement, qui se rendent compte que ces gens-là, c'était toute la fake, c'était tout pas vrai. Paul dit donc à Timothée, le bon enseignement est essentiel, mais il y a plus que juste le bon enseignement. On n'est pas sauvé par notre rectitude doctrinale ou le fait qu'on a un bon enseignement. Il faut le mettre en pratique, Jésus nous dit. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, ça ne marche plus cette affaire-là, fait que je vais dépendre de vous là, en arrière, merci. On lit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Timothée était probablement relativement jeune. Dans ce temps-là, jeune, c'était moins que 40 ans. Pour l'époque, puis la culture grecque et juive, c'était en bas de 40 ans, tu étais considéré jeune. Et moi, je suis super content, j'ai encore 39 ans. Avec, yeah, man! Je suis jeune! À matin, vous pouvez comme dire que je suis jeune, yeah! Ce que Paul est en train de dire, en gros, à Timothée, c'est « Laisse pas les gens plus vieux que toi utiliser ton âge comme une excuse de ne pas t'écouter. » Enlève-leur cette excuse-là de « Ah, lui, il est jeune, c'est comme pas important qu'est-ce qu'il dit, ou il n'y a rien vraiment à dire. » C'est comme, tu sais, aujourd'hui, on entend ça, « Ah, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, en voulant dire comme ils sont tout le temps là en train de penser qu'ils sont bons, tout ça. » Puis je suis convaincu qu'il y en a justement, qu'il y a des jeunes que les vieux ne veulent pas les écouter parce que justement, ils se pensent bons, puis tu sais, ils se pensent meilleurs que les autres, puis ils pensent qu'ils connaissent mieux que leurs parents, puis que les gens plus vieux, puis tout ça. Mais Paul est en train de leur dire, « Enlève-leur cette excuse-là aux gens qui sont plus vieux que toi, Timothée. Voici comment tu vas leur enlever l'excuse de ne pas t'écouter juste parce que tu es jeune. C'est en étant un modèle de ce que l'Évangile fait comme différence dans la vie d'une personne. Que ce soit dans les domaines de ta vie qui sont visibles, les domaines intérieurs ou extérieurs, comme dans le texte, on voit, si on peut juste reculer, ici, tu sais, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté, on ne prendra pas le temps ce matin d'aller en détail dans toutes ces choses-là, mais les deux premiers, tu sais, c'est des choses un peu extérieures, visibles. Tes paroles, ta conduite, comment les gens voient te conduire dans les relations que tu as avec les gens autour de toi. Les choses que tu dis, ça peut être tellement dommageable. L'apôtre Jacques, ou Jacques dans son épître, dans le Nouveau Testament, nous parle du fait que la langue peut être très, très dommageable. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que les choses qu'on a dites, les gens s'en souviennent, puis ça reste, puis ça peut créer vraiment des blessures. Que ce soit dans les choses visibles et extérieures, ou la vie intérieure et personnelle de Timothée, son amour, sa foi et sa pureté. L'important ici, c'est que un bon serviteur de Jésus-Christ est appelé à aligner ce qu'il enseigne avec ce qu'il vit. Oui, il y a à dire l'Évangile fidèlement, mais il est appelé aussi à vivre l'Évangile fidèlement, et les deux sont inséparables. Le point, ce n'est pas d'être un modèle ou de ne pas être quelqu'un de parfait. Je vais redire ça. Le point, ce n'est pas, selon moi, d'être un modèle ou de ne pas être un modèle. Peu importe, je pense, comment on agit, les gens nous regardent et nous observent. Donc, on est en train de donner l'exemple par nos vies, même quand on ne pense pas qu'on donne l'exemple. Même quand on ne pense pas qu'on est en train d'être un modèle, les gens nous regardent, ils nous observent vivre. Donc, la question, ce n'est pas est-ce que je vais être un modèle ou je ne vais pas en être un. La question, c'est plutôt quel genre de modèle est-ce que je suis? Est-ce que j'encourage les gens autour de moi à devenir meilleurs? Est-ce que je les influence vers le mieux ou est-ce que je les influence vers le pire? Parce que c'est certain qu'il y a des gens qui t'observent et qui te regardent. Au verset 16, on dit « Veille sur toi-même », justement. Donc, au verset 15, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que quoi? Tes progrès soient évidents pour tous. » Donc, juste pour finir, moi, je sais que j'ai souvent le sentiment, quand je suis devant ce fait-là, de l'importance non seulement d'enseigner, là, moi, je suis sur l'estrade ce matin, je suis en train d'enseigner, puis devant l'importance de pas juste enseigner, mais que ma vie s'aligne avec mon enseignement, j'ai souvent le sentiment d'imposteur quand je me tiens devant vous sur l'estrade. Je suis souriant, je parais bien, tout a de l'air beau, mais au fond de moi, je sais, puis si vous parlez à Marie ou à mes enfants, ma femme Marie, ou à ceux qui me côtoient le plus souvent, vous pouvez demander au gars de l'équipe pastorale, par exemple, avec qui je travaille à chaque semaine, j'ai plein de défis avec mes paroles, avec ma conduite, avec mon amour. Je manque souvent d'amour. Avec ma foi, des fois, je suis découragé. Je suis comme, ça ne sert à rien. J'ai le goût d'abandonner. Avec ma pureté même. La question, est-ce que je suis disqualifié de ce que Dieu m'appelle à être et de faire en tant que pasteur à cause de ça? Si mon attitude, je pense, devant mes faiblesses puis mes péchés dans ces domaines-là, c'était comme la nonchalance, le laisser aller, le refus de reconnaître mes torts ou quand je tombe, je pense que oui, je serais peut-être disqualifié de ça. Si je refusais de me repentir de ces choses-là quand j'en suis conscient puis quand je les vois dans ma vie, si je persévérerais dans la non-repentance, je pense que je serais disqualifié d'être ici devant vous en train de vous enseigner quelque chose. Mais au contraire, si je dois être un modèle pour les croyants, ça inclut aussi un modèle de repentance, je pense. Tu sais, ce n'est pas un modèle de quelqu'un qui ne tombe jamais, qui tout le temps s'accroche, tout le temps parfait, parce que ça n'existe pas sur cette terre. Tout le monde serait découragé de voir devant eux un pasteur qui est tout le temps en train de montrer que lui, il ne tombe jamais, que lui, il ne pêche jamais. Si je dois être un modèle, c'est aussi un modèle dans la repentance. Ça l'implique que de temps en temps, on va tomber, même nous autres, les pasteurs, même les responsables d'église vont faire des gaffes. Si on est appelé à être un modèle, ce n'est pas dans la perfection totale, mais même dans la repentance, c'est quoi qu'on fait quand on tombe? C'est quoi qu'on fait quand on fait une gaffe? Parce que c'est sûr que ça va arriver jusqu'à temps que Jésus revienne nous chercher. Mais c'est quoi qu'on fait? Comment on réagit? C'est le travail de vos pasteurs de vous enseigner aussi puis d'être un exemple dans ce domaine-là. On poursuit la repentance et la foi. Puis on retourne à l'Évangile qui nous a sauvés. C'est le troisième point. On est appelé à dire l'Évangile, à vivre l'Évangile fidèlement, puis on est appelé à poursuivre Dieu de toutes nos forces, malgré les défis. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, il y en a qui vont mépriser parce que tu es jeune. Tu as reçu un don, Timothée, on voit ça au verset 14. Oui, tu as reçu un don lors d'une prophétie quand les anciens t'ont imposé les mains. Ne néglige pas ce don-là. Tu vas avoir tendance peut-être à négliger ce don-là. Il va y avoir des défis, tu vas être découragé. Mais ne néglige pas le don que Dieu t'a donné, c'est, il te l'a donné par son esprit, puis c'est par son esprit qu'il va pouvoir t'amener à le mettre en pratique. Au verset 13, 15 et 16, on lit « Applique-toi à lire les Écritures », on lit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, mets-y de la persévérance » au verset 16. Donc, on est appelé à dire l'Évangile, à vivre l'Évangile, mais on est appelé aussi à faire tous nos efforts pour poursuivre Dieu, malgré les défis qui sont devant nous. Il ne faut jamais penser que nous avons en nous-mêmes, sans Dieu, la capacité de faire quoi que ce soit. Mais en même temps, Dieu nous appelle à faire tous nos efforts pour le poursuivre, à s'attendant à lui. C'est ça que Paul dit dans le verset 9, dans la section qu'on a vu la dernière fois. « Voici pourquoi nous luttons, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. » Donc, je vous invite à vraiment faire confiance à Dieu, puis à prier même pour vos pasteurs. C'est pas évident d'être ceux que Dieu appelle pour être devant vous, d'enseigner fidèlement la parole de Dieu, de dire l'Évangile fidèlement et de le vivre aussi fidèlement par la foi, puis en espérant que Dieu nous fasse grâce. C'est pas évident, il y a des attaques, il y a toutes sortes de choses qui se passent et Dieu nous invite quand même à le suivre et à lui obéir là-dedans. Mais je vous invite à prier pour les pasteurs de votre église parce que c'est un mandat, un appel dangereux, comme dirait l'auteur Paul Tripp. C'est un appel dangereux qui a toutes sortes de défis. Puis on a besoin vraiment de l'aide et de l'assistance de Dieu pour y arriver, n'est-ce pas? Je vous invite, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée ce matin et pour le fait que tu nous invites, Seigneur, à dépendre de toi, à mettre notre confiance en toi, Jésus, à espérer en toi pour ce à quoi tu nous appelles. Oui, c'est Augustin, Seigneur, dans l'histoire de l'Église, Saint-Augustin qui a dit que Dieu donne ce qu'il ordonne. Et ce matin, Seigneur Jésus, on prie que tu puisses nous donner, Seigneur, par ta grâce, tout ce qu'il nous faut pour obéir à l'appel que tu as pour chacun d'entre nous. Que tu puisses nous donner par grâce, Seigneur, ce qu'on a besoin pour dire l'Évangile fidèlement, pour vivre l'Évangile fidèlement et pour te poursuivre, Seigneur Dieu, de tous nos efforts, malgré tous les défis qui sont devant nous. C'est en Jésus qu'on prie ces choses, Seigneur. Amen.